tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Ça dégringole dans l'empire du sans souci, que dans les rigoles coule le sang des asservis. Quand toutes les claques sont des outils impuissants, qu'il faut la matraque pour taper sur ce qui est vivant. Dans la fièvre de l'ennui, j'oxyde tous mes ennemis, et le désespoir s'enfuit, et je me dis.
Tout le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette deuxième thématique de À propos, nous vous informons tout d'abord d'un changement intervenu dans l'intitulé de l'émission qui sera désormais Le monde est beau. Ce changement est intervenu suite à une discussion au sein de la rédaction concernant la simplification d'une identité jugée un peu confuse au terme de l'écoute de la première diffusion. Cette précision nécessaire apportée, nous vous proposons dans cette deuxième thématique d'aborder la question du militantisme. Cette deuxième thématique débutera par un aperçu historique très bref et non exhaustif. Militantisme, activisme, opposition, contestation, revendication, indignation sont autant de termes désignant des résistances sous des formes et des degrés d'opposition divers, pouvant même aller jusqu'au terrorisme. Autant de termes certes, et qui indiquent autant de diversité dans la pensée et la pratique des modes opératoires. Cette diversité de points de vue, inévitable en regard d'une information devenue également pléthorique dans le domaine de la critique sociale, relève à la fois le caractère prépondérant que revêt la dogmatisation dans les diverses tendances de résistance sociale actuelles, tout autant que l'importance croissante que prend l'existence des références. Alors même qu'elle revendique une émancipation par rapport aux hiérarchies de pouvoir et qu'elle met en avant l'imposture que constitue souvent l'expertise, la contestation actuelle semble pourtant plutôt boulimique de ses recours aux certifications littéraires ou philosophiques qui foisonnent également dans ces milieux. Cet apparent paradoxe peut être analysé de différentes manières, mais on peut en tous les cas y voir la nécessité du recours à l'expertise critique pour étayer un propos revendicateur mal assuré. Ceci renforce malheureusement le fait que, fondamentalement, toute remise en question de l'ordre social dominant ne saurait être acceptée que dans la mesure où sa pertinence est validée par le modèle d'explication imposé par ce même système dominant. Et ce constat souligne donc en creux que toute revendication ne peut être admise par le système social dominant que si cette revendication s'appuie sur des modèles d'analyse et de réflexion légitimés par lui-même, à savoir le mode de raisonnement rationnel reposant sur la base de preuves scientifiquement irréfutables, ce qui revient à dire que l'expérience de vie, sur un plan intuitif d'investigation et d'introspection, confrontant la réalité socialement prétendue avec la réalité vécue individuellement, ne peut en aucun cas être reçue par le système en tant que critique de l'ordre social dominant si celui-ci n'est pas appuyé par une articulation scientifique de la pensée, celle-ci correspondant à son propre modèle de propagande de la structure sociale voulue. D'autres explications sont sans doute envisageables et au rang desquelles, sans entrer dans le détail, on pourrait citer une volonté de simplifier le travail par le recours aux citations ou aux collages, procédés qui permettent la rédaction d'un commentaire hâtif soutenu par référence. Nous reviendrons sur ce point en cours de développement de l'émission. Pour commencer, et pour aborder cette question devenue fort complexe des divers modes existants pour exprimer son opposition à la structure sociale actuelle, nous procéderons par étapes successives de lecture. Tout d'abord, en partant d'un bref survol historique, nous aborderons ensuite les différentes problématiques liées aux différentes formes de contestation et d'opposition à la structure sociale dominante actuelle. Des aspects aussi divers que l'engagement politique, la mobilisation sociale et ses forums, la radicalisation de l'engagement, qu'elle soit envisagée sous sa forme rhétorique ou en termes d'activisme radical, la question d'un épuisement évoqué dans le militantisme, la multiplication des causes et le militantisme en réseau seront abordées au cours de cette thématique. Ce premier volet présente donc un bref aperçu de l'évolution historique des luttes de classe. La question étant vaste, et notre objectif n'étant pas d'être exhaustif ni objectif sur ce sujet, nous avons concentré notre attention sur trois textes. Le premier évoque plutôt des mouvements de contestation émergés en Amérique fin 19e, début 20e. Le second, quant à lui, trace un bref survol des oppositions ayant caractérisé des résistances, populaires ou non, au système capitaliste productiviste organisé par le libéralisme. Et en troisième, enfin, évoque l'importance de la presse et de son évolution récente en tant que productrice d'idées pour le système dominant. Cet article évoque un projet de réinvestissement social des institutions de l'information en vue de procéder à un rééquilibrage des points de vue. Nous commençons donc ce volet avec la lecture d'un texte d'Astra Taylor intitulé « Les deux jambes du militantisme » paru dans le Monde diplomatique de juin 2016 et concernant des mouvements militants aux États-Unis d'Amérique au milieu du XXe siècle.
Lutte organisée et action spontanée contre l'ordre actuel. Deux types de combats se côtoient, parfois rivalisent. La propagande par le fait recherche une prise de conscience morale et politique. Elle a recours à des techniques spectaculaires, souvent individuelles, mais peine à maintenir l'élan initial. Moins en vogue, l'organisation privilégie un travail de longue haleine, plus collectif, moins ludique. Il arrive pourtant que ces deux fleuves se rejoignent. Il y a une dizaine d'années, j'assistais à une conférence intitulée 1968 dans une université du New Jersey. L'orateur, Mark Rudd, une figure du mouvement étudiant et de la contre-culture des années 1960, avait pris sa retraite au Nouveau-Mexique après avoir enseigné les mathématiques au sein d'établissements d'enseignement supérieur fréquentés surtout par des pauvres. Dans son discours, il s'amusa à démystifier la célébrité qui lui était tombée dessus lorsque, âgé d'une vingtaine d'années, il joua un rôle important dans l'occupation de l'Université Columbia à New York. À la même époque, il fut également partie prenante du Weather Underground, un groupe radical apprécié des médias, adepte de la propagande par le fait, qui connut son heure de gloire en faisant exploser des bombes devant le Capitole puis le Pentagone, heureusement sans faire de victimes. L'assistance, composée pour l'essentiel d'étudiants et de jeunes gens politisés, ne demandait qu'à s'enflammer pour le passé révolutionnaire de Rudd, fasciné par sa condition de fugitif pendant des années. Les weathermen, se disait-on, y sont peut-être allés trop fort et n'ont rien accompli de tangible, mais au moins ils ont agi. Rudd ébranla notre romantisme bon marché. À la différence de la plupart de ses anciens camarades, devenus plus conservateurs avec l'âge, il était resté fidèle aux idéaux politiques de sa jeunesse. Mais il n'adhérait plus à la tactique de la confrontation directe qui lui avait valu sa notoriété. La pavane machiste, les appels à prendre les armes, tout cela, nous disait-il, n'avait représenté qu'une illusion délirante. En s'attribuant le rôle avantageux d'avant-garde, destiné à catalyser une force combattante au service des peuples du monde, lui et ses camarades ne réussirent qu'à démobiliser la base militante que d'autres avaient mis des années à rassembler, au prix de beaucoup d'efforts. Ce qui ne mesurait pas à l'époque, nous expliqua-t-il, sans chercher à ménager nos fantasmes insurrectionnels, c'était la différence entre l'activisme et l'organisation, entre la mise en scène de ses idéaux et la construction d'un mouvement. Ce message, il ne cesse de le marteler. La seule fois, m'a-t-il dit récemment, où j'ai entendu le mot activiste il y a 50 ans, c'était sous forme d'insulte adressée aux militants étudiants par nos ennemis d'alors, les administrateurs de l'université et les éditorialistes. À la différence du terme organisateur, ancré dans l'histoire du syndicalisme et de la gauche américaine, celui d'activiste, aux origines ambiguës, s'est progressivement imposé, pour désigner les personnes engagées dans une action de régénération individuelle et politique au sens large. Nous-mêmes avions l'habitude de nous qualifier tour à tour de révolutionnaires, de radicaux, de militants, de socialistes, de communistes ou d'organisateurs. Se souvient Roxane Dunbar-Ortiz, une historienne de gauche forte de 50 ans d'expérience des mouvements sociaux. L'apparition du mot « activiste » sur la scène publique coïncida, selon elle, avec la généralisation du discrédit de la gauche. Une grande partie des camarades de lutte de Rudd et de Dunbar-Ortiz venaient de familles imprégnées d'idées communistes, syndicalistes, ou alors ils avaient pris part au combat pour les droits civiques dans les États du Sud. Ils s'y étaient familiarisés avec un mouvement adossé aux églises et à des structures communautaires, payant souvent, pauvrement, des organisateurs afin qu'ils maintiennent la population mobilisée pendant de longues périodes, alors même que les perspectives de victoire étaient lointaines. C'est seulement après la fin des années 1960 et à la faveur de nouveaux combats, centrés sur le féminisme, l'émancipation des homosexuels, l'écologie, les droits des handicapés, que les activistes ont commencé à proliférer. Au cours des années 1980 et 1990, le terme s'est imposé. Les mouvements qualifiés de la sorte ont accompli un travail énorme en un temps très court, bien souvent grâce à la mise en œuvre de techniques qui enrichirent les formes de lutte traditionnelles. Ils inventèrent notamment des procédures ouvertes, démocratiques et anti-hiérarchiques. Cependant, tout à leur désir de s'affranchir de l'héritage pesant de la gauche traditionnelle, ils ont parfois jeté par-dessus bord des tactiques, traditions et méthodes qui auraient pu leur être utiles. Les activistes ont tiré parti d'une période où les contestataires se détournaient de ce qu'ils estimaient être des idéologies désuètes au profit de choix politiques plus incisifs et plus radicaux. À partir des années 1960, il devint également courant de chercher à se dégager de la figure du leader charismatique, compte tenu des dégâts essuyés par le mouvement social lorsque le personnage ayant endossé ce rôle finissait assassiné. Martin Luther King, Perdait la raison, Elridge Cleaver, ou Retournait sa veste, Jerry Rabin. Dans le même temps, les syndicats américains pâtirent d'avoir laissé s'installer à leur tête des bureaucrates timorés ou corrompus. Le désenchantement envers les professionnels du changement social a alors gagné les cercles les plus idéalistes. Mais, pendant que la gauche se détachait de ses racines organisationnelles, les conservateurs, eux, créaient des structures nouvelles, les think tanks, des groupes d'affaires arrosés d'argent par les multinationales. Ils galvanisaient l'infanterie évangélique de la majorité morale. Ils déroulaient le terrain à la révolte fiscale des grosses fortunes. La gauche gagnerait donc à réapprendre à s'organiser pour rendre son activisme plus durable, plus efficace, pour soutenir et amplifier son élan lorsque l'intensité des protestations de rue décline. Autrement dit, fonder des organisations politiques, débattre de stratégies à long terme, faire émerger des dirigeants, choisis en fonction de leur fiabilité et non de leur charisme, et réfléchir à la manière de les soutenir. La progression de l'activisme au cours des dernières décennies est un phénomène salutaire. Toutefois, les modes d'organisation qui assuraient jadis le succès des mouvements sociaux ne se sont pas développés au même rythme, bien au contraire. Aujourd'hui, les activistes américains ont des repères politiques très différents de ceux de leurs aînés. Nul n'a plus de parents membres du Parti communiste. Les syndicats sont moribonds et de la longue lutte du mouvement des droits civiques, qui aurait encore tant à nous apprendre, ne subsiste qu'une série d'images pieuses et de contes de fées. Le terme même d'activiste a été dévoyé de son sens. Dorénavant, il décrit davantage un tempérament qu'un spectre donné d'opinions et de pratiques politiques. Nombre de ceux qu'on qualifie ainsi paraissent se délecter de leur marginalisation et se soucier comme d'une guigne de l'efficacité, en imaginant peut-être que leur isolement constitue une marque de noblesse ou une preuve de vertu. De larges segments de l'activisme contemporain risquent donc de succomber au piège de l'individualisme. Or, l'organisation est coopérative par nature. Elle aspire à entraîner, à construire et à exercer un pouvoir partagé. Elle consiste, comme l'écrit le jeune sociologue et militant Jonathan Smucker, à transformer un bloc social en force politique. n'importe qui peut se dire activiste, même quelqu'un qui, en tentant sans relâche d'attirer l'attention sur un sujet important, agit seul et ne répond de ses actes envers personne. Faire en sorte que nos semblables prennent conscience d'un problème, l'un des objectifs privilégiés par l'activisme contemporain, peut se révéler fort utile. Mais l'éducation n'est pas la même chose que l'organisation, laquelle n'implique pas uniquement d'éclairer l'individu qui reçoit votre message, mais aussi d'agréger des personnes autour d'un intérêt commun afin qu'elles puissent combiner leurs forces. L'organisation, tâche de longue haleine et souvent fastidieuse, implique de créer des infrastructures et des institutions, de trouver des points vulnérables dans les défenses de vos adversaires, de convaincre des individus dispersés d'agir au sein d'une même équipe. Depuis 2011, nombre d'acteurs des mouvements sociaux ayant surgi aux quatre coins du monde sont tombés dans le piège décrit par Mark Rudd. L'activisme, comme expression de nos sentiments profonds, n'est que l'un des éléments de la construction d'un mouvement. C'est une tactique qui a été élevée au rang de stratégie, en l'absence de toute stratégie. La plupart des jeunes militants pensent que s'organiser consiste à prendre les dispositions nécessaires à la tenue d'un rassemblement ou d'un concert de soutien. On pourrait ajouter à cette liste, créer un hashtag sur les réseaux sociaux, poster une pétition en ligne, animer des débats entre internautes. Le travail réel d'organisation a perdu de son cachet auprès de nombreux cercles militants, figés dans leurs croyances, en une insurrection spontanée et dans une suspicion profonde envers toute institution, direction ou tentative de prise de pouvoir. À certaines périodes, des rassemblements, des concerts, des hashtags, des pétitions et des débats en ligne trouvent leur pleine utilité. Le problème surgit lorsque ces pratiques représentent l'horizon ultime de l'engagement politique. C'est une bonne chose qu'au cours des dernières années, bien des gens aient eu envie d'agir et que le développement des nouvelles technologies ait facilité leur passage à l'acte, observe L.A. Kaufmann, qui achève la rédaction d'une histoire de l'action directe. S'engager dans de petites actions concrètes, signer une pétition, participer à un rassemblement, etc., peut en effet encourager ensuite à se mettre au service d'objectifs plus généraux, par exemple, contrarier les élites et s'attaquer à leurs profits. Mais des organisateurs de la vieille école, comme les syndicalistes, continuent simultanément à abattre un travail inestimable, et un nombre croissant d'individus font l'expérience de nouvelles formes de pouvoir économique et de résistance. L'un des défis majeurs de notre époque néolibérale et post-fordiste consiste donc à trouver des moyens inventifs de mettre à jour le modèle du syndicalisme et à l'adapter aux conditions actuelles de financiarisation et d'insécurité sociale. À construire de nouveaux liens entre les millions de travailleurs échoués, privés d'un emploi stable, de droits syndicaux, afin qu'ils constituent une puissance avec laquelle il faudra compter. Les organisateurs du combat pour la justice climatique, par exemple, ont mis au point des formes de mobilisation originales contre les profits des compagnies pétrolières en poussant le gouvernement américain à ne plus délivrer de licences d'exploitation de mines de charbon sur des terres publiques. Lancée en 2012 par des étudiants sur leur campus, cette campagne contre les énergies fossiles a contraint des investisseurs totalisant 3 400 milliards de dollars, 3 000 milliards d'euros de fonds, à se retirer du marché. L'action s'est rapidement propagée au-delà des cercles universitaires, jusqu'à rallier une soixantaine de villes dans le monde. L'un des plus grands succès de cette campagne jusqu'ici est qu'elle a ruiné la confiance dans les projets de l'industrie des énergies fossiles, se réjouit Jamie Henn, l'un des instigateurs du mouvement et cofondateur du groupe de lutte pour l'environnement 350.org. Ce ne sont plus seulement de petites écoles de beaux-arts de gauche qui prennent au sérieux le risque carbone, mais d'énormes institutions financières telles que la Banque d'Angleterre, le Fonds souverain norvégien et les fonds de pension californiens. Le mouvement Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, peut également se prévaloir d'un résultat impressionnant, puisqu'il a remis sur le devant de la scène la question des oppressions subies par les Noirs aux États-Unis. De jeunes collectifs comme les Dream Defenders, défenseurs du rêve, un groupe fondé en Floride après le meurtre raciste de Trayvon Martin, revendiquent un modèle d'organisation qui accepte la présence de dirigeants et qui doute des effets d'un activisme uniquement basé sur Internet. Pour changer la vie de nos communautés, nous avons besoin de pouvoir, pas seulement de followers, ont expliqué les dirigeants du groupe. Quand la notion d'activisme est née, il y a un siècle, dans l'esprit du philosophe allemand Rudolf Eucken, elle privilégiait le monde spirituel plutôt que le monde matériel. Cette préférence s'observe encore chez ceux qui croient que l'action, même déconnectée de toute stratégie cohérente, peut provoquer magiquement une sorte d'épiphanie sociale. Heureusement, les activistes n'ont pas totalement évincé les organisateurs. Une multitude d'espaces subsiste où, selon Mark Rudd, se pratique le triptyque éducation, construction d'une base, coalition, qu'on pourrait décrire comme la création d'une identité collective alliée à un partage du pouvoir économique. Mais ces efforts, peu spectaculaires, se voient trop souvent ensevelis par le dernier buzz en ligne. Ces derniers mois, des dizaines de milliers d'Américains se sont rués dans les meetings de M. Bernie Sanders pour l'entendre dénoncer la classe des milliardaires. Dès lors qu'un nombre croissant de jeunes et une majorité de nouveaux électeurs démocrates ont une perception positive du mot « socialisme », un travail d'organisation efficace et intelligent permettrait d'appuyer cette résurgence renversante de la sensibilité de gauche et de canaliser l'énergie qu'elle charrie au-delà du rituel étriqué du scrutin présidentiel et de la politique électoraliste. Les élites n'ont jamais eu de mal à faire passer ceux qui contestent leur pouvoir pour des perdants et des grincheux. Il leur sera toujours plus difficile de disqualifier les organisateurs qui ont réussi à mobiliser une base populaire qui agit de façon stratégique.
Ainsi se termine ce billet. À la semaine prochaine pour la suite de l'émission. L'équipe rédactionnelle vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do. We'll be right back.